VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Jean-Roger Billon à ce micro pour Le Monde aujourd'hui, au sommaire de cette édition du mercredi 28 juin 2023. En Sierra Leone, le calme règne malgré le résultat contesté de la présidentielle. Le président Mahamadou Diallo, réélu pour un deuxième mandat, a prêté serment mardi. En Guinée, Hadja Rabiatou Serra Diallo, ancienne chef du Parlement de transition et figure syndicale, est décédée. Appel au calme en France après des heures liées à la mort d'un adolescent tué par la police. Le grand pèlerinage musulman touche à sa fin en Arabie Saoudite, avec à la clé la fête de la Tabaski célébrée aujourd'hui partout dans le monde.
Les moutons qu'on paye en est passé à 150 000, maintenant c'est devenu à 200 000. À la mosquée, on a prié pour nous tous, Dieu nous donne le paradis et la paix dans notre pays.
Reportage à suivre dans la partie magazine sur la fête au Cameroun. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Les rues de Freetown, capitale de la Sierra Leone, ont été calmes ce matin au lendemain de la prestation de serment du président Julius Mahamadou Diallo pour un second mandat à l'issue de l'annonce de résultats contestés par son principal rival. Les précisions avec John Lyndon.
C'est un jour férié en Sierra Leone à l'occasion de la fête musulmane de la Tabaski. Dans le centre de Freetown, la population vaque à ses occupations. Hier, le président Julius Mahamadou Diallo a prêté serment peu après l'annonce de sa victoire par la commission électorale avec 56,17% des voix. Dans une allocution, il a insisté sur les enjeux économiques et le développement des infrastructures dans l'un des pays les moins développés au monde. Il a aussi appelé tous les Sierra Leonais à se rassembler pour le progrès et la prospérité. Je rejette catégoriquement les résultats annoncés par la commission électorale, a dit mardi soir sur Twitter Samora Camara, arrivé deuxième. Il avait dénoncé avant l'annonce des résultats un manque total de transparence de la commission électorale.
Dans le nord du Mali, au moins 13 civils ont été tués depuis mardi par de présumés djihadistes du groupe État islamique. L'attaque a également fait une dizaine de blessés et des centaines de personnes ont abandonné plusieurs villages de la commune de Gabéro dans la région de Gao, a dit un élu local qui a précisé que l'armée malienne n'était pas présente sur les lieux. Les Nations Unies ont dit tirer la sonnette d'alarme concernant la situation humanitaire dans le nord-est du Nigeria, soulignant la hausse du nombre de personnes qui ont besoin d'aide. Boko Haram et le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest opèrent dans cette région située à la frontière avec le Tchad, le Niger et le Cameroun. Depuis le début de la rébellion de Boko Haram en 2009, le conflit a fait plus de 40 000 morts et 2 millions de déplacés internes. L'ancienne présidente du Parlement de transition en Guinée, Hadja Rabiatou Serra Diallo, est décédée la nuit dernière à Conakry à l'âge de 73 ans. L'effet marquant de la vie de cette grande figure syndicale en Guinée avec Mouamadou Mfa.
Hadja Rabiatou Serra Diallo a été pendant plusieurs années la dirigeante de la puissante Confédération nationale des travailleurs de Guinée, principale centrale des fonctionnaires. La CNTG a été sous sa direction à l'initiative d'une retentissante grève générale contre la dégradation des conditions de vie, puis d'un mouvement social visant la corruption des élites dirigeantes. Arrêtée lors de cette dernière grève et accusée par le président Lansana Conté de vouloir mettre le feu en Guinée, elle avait déclaré « Je suis femme et mère de 6 enfants et quand je mets le feu, c'est sous la marmite pour nourrir mes enfants. Mais en Guinée, la marmite est vide, c'est ça qui met le feu au pays. » ENV International, une organisation néerlandaise, l'avait intronisée « Femme du monde » en 2006. Hadja Rabiatou Serra Diallo a ensuite dirigé le Conseil national de transition, un organe législatif mis en place sous le général Sékouba Konaté. Elle sera ensuite présidente du Conseil économique et social, un organe consultatif jusqu'au coup d'État qui a renversé le président Alpha Condé.
Des centaines de personnes ont prié pour la paix aujourd'hui à Khartoum, au Soudan, au premier jour de l'Aïd al-Adha, la grande fête musulmane, mais tir et explosion ont secoué de nouveau la capitale. Les deux généraux qui se livrent une guerre depuis la mi-avril dans Khartoum et dans la région du Darfour ont annoncé mardi des trêves unilatérales à l'occasion de l'Aïd, mais comme les précédentes, elles n'ont pas été respectées. Dans l'après-midi, des habitants d'Omdurman, banlieue du nord de la ville, ont fait état de bombardements aériens et de tirs de batteries antiaériennes, alors que depuis plusieurs jours, les forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Daglo tentent de faire tomber la capitale. Le président sud-soudanais, lui, Salva Kiir, en visite à Pretoria. Il s'est entretenu ce mercredi avec son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa sur le processus de paix fragile dans le plus jeune pays du monde. Les deux chefs d'État devaient aborder aussi des questions d'intérêt mutuel et le conflit en cours dans le Soudan voisin, a déclaré la présidente sud-africaine dans un communiqué.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En France, les autorités tentent d'éviter un embrasement après la mort d'un adolescent de 17 ans tué par un policier lors d'un contrôle routier. Ce drame soulève une vague d'émotions et fait redouter de nouveaux heurts en banlieue parisienne. Nani Talani.
Quelques 2000 policiers et gendarmes doivent être mobilisés dans Paris et sa proche banlieue pour éviter des troubles suite au décès de Naël M, 17 ans, à Nanterre. Le président Emmanuel Macron a jugé inexplicable et inexcusable ce décès. La première ministre Elisabeth Borne a souligné l'exigence absolue de vérité. L'Assemblée nationale a observé une minute de silence. La mère de la victime a appelé à une marche blanche jeudi à Nanterre. « J'ai mal à ma France », a réagi Kylian Mbappé, la vedette du PSG et capitaine de l'équipe nationale. Ce décès relance la controverse sur l'action des forces de l'ordre vers les jeunes issus de l'immigration africaine. Âgé de 17 ans, Naël M. a été tué après un refus d'obtempérer lors d'un simple contrôle routier à Nanterre. Le policier de 38 ans, filmé en train de tirer à bout portant sur lui, a été placé en garde à vue. Sa mort a suscité une vague de colère à Nanterre et dans d'autres villes. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a déclaré que 31 personnes ont été arrêtées, 24 policiers ont été blessés et une quarantaine de voitures incendiées.
Joe Biden estime que le président russe Vladimir Poutine est un paria qui paie clairement la guerre en Ukraine, même s'il est, selon le président américain, trop tôt pour dire si son homologue russe a été affaibli par la rébellion avortée de Wagner. La Maison-Blanche demeure prudente dans ses commentaires sur les conséquences de la mutinerie avortée du patron de Wagner, Evgeny Prigogine, le week-end dernier, lorsque ses hommes se sont emparés des bases militaires et ont marché sur Moscou avant de faire volte-face. Le conseiller pour les affaires étrangères de Vladimir Poutine, Yuri Ushakov, s'est entretenu ce mercredi à Moscou avec l'émissaire du pape François pour la paix sur le conflit en Ukraine à la demande du président russe. Selon le journal catholique français La Croix, M. Zoupi doit rencontrer le patriarche Cyril, le chef de l'église orthodoxe russe et proche allié de Poutine pendant son séjour à Moscou. Des pourparlers sur l'adhésion de la Suède à l'OTAN bloquée par la Turquie réuniront le 6 juillet à Bruxelles des représentants des deux pays, a annoncé ce mercredi le secrétaire général de l'Alliance, Jens Stoltenberg. Cette réunion qui rassemblera des ministres des Affaires étrangères, des chefs du renseignement et des conseillers à la sécurité nationale aura lieu quelques jours avant le sommet de l'OTAN organisé à Vilnius les 11 et 12 juillet. Des centaines de milliers de pèlerins musulmans bravent une chaleur intense pour accomplir près de la Mecque le rituel de la lapidation de Satan, l'un des derniers du grand pèlerinage annuel musulman. Alexandrine Ollognon.
Dès l'aube, les pèlerins se sont relayés sur le site de la lapidation à Mina, une vallée aride située à quelques kilomètres de la Mecque, dans l'ouest de l'Arabie Saoudite, pour jeter des cailloux sur une grande stèle symbolisant le diable. Il s'agit d'une reconstitution de l'histoire du prophète Ibrahim, connu sous le nom d'Abraham dans les traditions chrétiennes et juives, qui aurait lancé des pierres à Satan pour résister à la tentation. Le rituel de la lapidation coïncide avec l'Aïd al-Adha, une fête célébrée par les musulmans à travers le monde. Il a viré plusieurs fois au drame par le passé, notamment en 2015, lorsqu'une bousculade gigantesque a fait 2300 morts. Depuis, le lieu a été aménagé avec des couloirs en béton et des ponts pour assurer la fluidité des mouvements de foule. Les fidèles doivent ensuite se diriger vers la grande mosquée de la Mecque, la ville la plus sacrée de l'islam, pour un dernier tour de la Kaaba, structure cubique noire vers laquelle les musulmans du monde entier se tournent pour prier, marquant aussi la fin du grand pèlerinage.
Et le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a réitéré aujourd'hui qu'aucun accord sur le nucléaire iranien ne se profilait à l'horizon, malgré des discussions indirectes menées avec Téhéran. Monsieur Blinken a indiqué que les États-Unis et leurs partenaires ont négocié de bonne foi.
Voilà pour le journal. Vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute éco avec Dani Talani.
L'Ouganda prévoit de démarrer la production de pétrole du projet Tilenga en 2025. Les kits de forage ont été mis en place et le forage a commencé, a déclaré la Société pétrolière nationale. Le projet Tilenga, dans les districts de Boulissa et Nyuya, dans les champs pétroliers du lac Albert, est opéré par Total en partenariat avec des Chinois. Pour l'exportation, le pétrole sera transporté via un oléoduc jusqu'au port de Tonga en Tanzanie, qui aura la capacité d'envoyer jusqu'à 246 000 barils de brut par jour sur les marchés mondiaux d'ici 2025. Le gouvernement marocain souhaite porter les énergies renouvelables à 52% de la capacité électrique installée contre 38% d'ici 2030. Il fait également pression pour une augmentation du dessalement et aider les villes et les agriculteurs à faire face à l'impact de la sécheresse. Terminons par la Commission européenne qui a présenté un cadre législatif pour un euro numérique en complément du cash. La devise électronique ne sera qu'une option de paiement en complément des espèces. Stockée sur une carte ou un téléphone mobile, elle permettra des paiements en ligne, mais aussi des paiements sans aucune connexion Internet qui préserveront autant l'anonymat et la confidentialité des données que des pièces et des billets.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
Kinshasa promet la sécurité aux Jeux de la francophonie.
Oui, Kinshasa a assuré que toutes les dispositions nécessaires sont prises, surtout en matière de sécurité, pour accueillir les participants au 9e Jeu de la francophonie, prévu du 28 juillet au 6 août dans la capitale de la RDC. Les équipements sont en cours de finition, a affirmé Isidore Kwanja, directeur du Comité national des Jeux, lors d'une conférence de presse à J-30. Une chose aujourd'hui est certaine, les Jeux de Kinshasa auront bel et bien lieu, ajoute M. Kwanja. Il précise qu'un contrat a été signé avec une entreprise privée pour la sécurité à l'intérieur des aires de jeu et que 4500 policiers seront chargés de la sécurité à l'extérieur. Plus de 3000 jeunes athlètes et artistes venus d'une quarantaine de pays sont attendus pour ces Jeux qui combinent épreuves sportives et culturelles.
La Guinée se relance dans la CAN des moins de 23 ans.
Après sa défaite lors du match inaugural devant le pays hôte, le Maroc, la Guinée s'est imposée 3-1 face au Congo lors des matchs de la deuxième journée hier mardi. Du coup, le Sili National Espoir occupe la deuxième place du groupe A devant le Ghana laminé par le Maroc 5-1. Les Lionceaux Espoir s'installent confortablement à la première place de cette poule A et se qualifient pour les demi-finales avec 6 points en 2 sorties. Les matchs de cette deuxième journée de la phase de poule se poursuivent ce mercredi avec les rencontres du groupe B. Le leader, le Mali, fait face à l'Égypte et le Gabon peut se relancer devant le Niger.
Au chapitre des transferts, accord entre Harry Kane et le Bayern Munich.
Le Bayern Munich et l'attaquant international anglais ont trouvé un accord pour un transfert cet été, affirme le quotidien Bild, précisant que Tottenham a repoussé une première offre de 70 millions d'euros. Le champion d'Allemagne est déterminé à s'attacher les services du capitaine de la sélection anglaise, âgé de 29 ans, dont le contrat avec les Spurs expire en 2024. Harry Kane, auteur de 30 buts cette saison en Premier League, a donné son feu vert à une arrivée dès cet été dans le club bavarois. Mais la direction du club londonien a rejeté une première offre de 70 millions d'euros. D'après le journal, elle souhaiterait obtenir 100 millions d'euros pour laisser partir son joueur vedette.
Gymnastique, Simone Biles annonce son retour à la compétition.
La superstar de la gymnastique mondiale qui n'a participé à aucune compétition depuis les Jeux olympiques de Tokyo en 2021 figure parmi la liste des athlètes inscrits pour l'US Classic les 4 et 5 août prochains. L'annonce est faite par la Fédération américaine de gymnastique. L'inscription à l'US Classic est obligatoire pour participer à l'US Classic, mais elle ne garantit pas la participation, a toutefois précisé la Fédération. Simone Biles avait mis sa carrière entre parenthèses depuis les Jeux de Tokyo. où elle avait renoncé à la plupart des épreuves à la dernière minute pour des raisons de santé mentale.
Page de sport VOA Afrique signé Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Au Cameroun, les réjouissances dans certains quartiers de Yaoundé ont été au centre de la fête de l'Aïd el-Adha ou Tabaski, malgré un contexte économique difficile. Les musulmans ont dû débourser un peu plus que l'an dernier pour acheter le mouton à sacrifier. Notre correspondant Emmanuel Jelentap a rendu visite à quelques familles à Yaoundé.
Un appareil musical distille des sonorités orientales dans une petite maison au quartier Briqueterie à Yaoundé. Djamina Daïrou s'affaire dans la cour de la maisonnée pour préparer le repas pour 30 convives.
Non, je suis en train d'arranger les trucs. On fait frire ça juste comme ça. C'est maintenant que je ne peux pas parce qu'on n'a pas apporté le mouton là en vide.
Mariam Kamsoulma, la cadette est étudiante à l'université de Yaoundé 1. Elle a déjà toute la tête dans la fête.
Pour les vêtements, j'ai pris quelque chose environ 10 000 comme ça. Pour la coiffure, j'attends demain d'abord, je vais faire ça. Donc aujourd'hui, pour la première jour, on mange, on célèbre avec la famille. Demain, comme je sors là, je vais fêter dehors avec mes amis.
Manger ensemble a été un grand challenge pour la famille d'Aziz Kouoto, qui habite dans une ruelle du quartier Briqueterie. Marié et père d'un enfant, Aziz dit avoir passé la fête avec des restrictions et retenues.
On n'a pas fait grand-chose cette année. Comme c'est la fête de sacrifice, il y a des années qu'on essaie un peu de s'apprêter. Mais cette année-ci, ça a été très compliqué. Avec aussi la denrée alimentaire qui est un peu chère dans le marché. On s'est battu avec la viande de bœuf.
À quelques mètres plus loin, l'ambiance est très festive pour 10 fidèles musulmans. Ils sont autour d'un plat de mouton rôti à la braise. Adam Obouba a confié ses amis à ce moment de partage, au prix d'un grand sacrifice.
Les moutons qu'on paye en est passé à 150 000, maintenant c'est devenu à 200 000. Et ici, on est là en famille, on va manger, il y a les viandes là-bas. On a abrégé, on est tellement très bien à la mosquée. On a prié pour nous tous, Dieu nous donne le paradis et la paix dans notre pays.
Au marché du mouton, il y a encore des acheteurs de dernière minute, à l'instar d'Amadou Ali. Mais ce dernier n'est pas entièrement satisfait.
Je suis à presque à 500 000 francs de dépenses. À 500 000 francs de dépenses. Et je ne parviens même pas à avoir le mouton que je veux à mon quantité de prix. Il y a des invités qui vont venir, je vais recevoir les invités. Et il me faut au moins des bons moutons pour recevoir aussi beaucoup de gens.
La célébration de la fête de la Tabaski s'est étendue jusqu'au centre urbain de Yaoundé avec d'interminables séances de photos en famille. Les fidèles musulmans de la capitale ont encore 2 jours de fête devant eux. Yaoundé, Emmanuel Jelentap, VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Au Soudan, le chef des forces de soutien rapide a annoncé un cessez-le-feu de 48 heures à compter d'hier mardi pour la fête musulmane de l'Aïd el-Adha. Mohamed Abdan Daglo a aussi déclaré qu'il tiendrait responsable ces forces qui ont commis des violations à l'encontre des civils. Les analystes sont sceptiques après l'échec de nombreux cessez-le-feu et notent le piètre bilan de Daglo en matière de droits de l'homme. Depuis Juba au Soudan du Sud, Michael Atit fait le point. Le récit avec Yacouba Ouedraogo.
Le chef des forces de soutien rapide, le général Mohamed Hamdan Daglo di Emeti, a annoncé un cessez-le-feu de 48 heures de mardi à mercredi pour la fête de la Tabaski. Dans un discours audio fourni à la VOA par la chaîne de télévision Al Hadat, Emeti déclare une trêve unilatérale de 2 jours pour la fête musulmane de l'Aïd el-Adha. Il affirme que ses forces vont rester sur leur position et ne vont agir qu'en cas de légitime défense. Il note que ce cessez-le-feu unilatéral montre l'engagement de ses forces à mettre fin aux combats et aux souffrances des civils.
Je souhaite que ces journées soient mises à profit pour un véritable pardon et une réconciliation entre les peuples. J'exprime mon profond sentiment à l'égard de nos concitoyens qui souffrent et traversent des situations humanitaires difficiles en raison des combats en cours qui ont affecté leurs moyens de subsistance. Nous sommes déterminés à mettre fin à cette guerre en espérant qu'ils seront à nouveau forts et unis.
Le général Mohamed Hamdan Daglo a aussi exprimé sa préoccupation quant aux violations présumées des droits de l'homme commises par ses forces à l'encontre des civils. Il a annoncé la création de tribunaux de campagne dirigés par le général de division Issam Saleh Fidel pour mener des enquêtes sur les allégations d'infractions qu'auraient commises ses forces.
Ces violations vont à l'encontre de la loi sur les forces de sécurité et des institutions de leurs dirigeants. Nous allons les traiter avec fermeté et sérieux. Je suis ici pour assurer sincèrement à notre peuple que nous rejetons et condamnons toute violence contre les civils, y compris celles qui auraient été commises par nos forces de sécurité.
La VOA a contacté Al-Tahir Abu Hadja, le chef des médias et de l'information du bureau du président du Conseil souverain et chef de l'armée Abdel Fattah Burhan, pour un commentaire, mais il n'a pas répondu. S'adressant à la VOA mardi, Mohamed Khalil, officier militaire à la retraite et professeur de relations internationales dans plusieurs universités soudanaises, a minimisé le cessez-le-feu unilatéral annoncé par le général Emeti. Selon lui, c'est une opération de charme vers la communauté internationale et les civils vont continuer à subir le pillage de leurs biens, les vols et l'intimidation.
Je ne pense pas que le cessez-le-feu soit destiné aux civils, car ces derniers ont quitté leur maison. Leurs biens sont pillés et vendus à bas prix sur les marchés locaux, dans les zones contrôlées par les forces de sécurité, à Khartoum et ailleurs.
Selon les Nations Unies, plus de 2,5 millions de personnes sont des déplacés internes ou réfugiés dans les pays voisins, comme l'Égypte et le Tchad.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Direction le Burkina Faso, où de décembre 2022 à février 2023, la commune de Dassa, située à 150 km à l'ouest de Ouagadougou, a subi plus d'une dizaine d'attaques terroristes. Début 2023, l'armée burkinabé a mené une série d'opérations dans la zone qui ont permis de ramener la quiétude dans le centre de la commune de Dassa. De nombreuses populations qui avaient fui sont revenues. Notre correspondant Gildas Das est rendu sur place pour voir comment la vie reprend ses droits.
Un peu plus de 150 km à l'ouest de Ouaga, voici Dassa. Il y a quelques mois de cela, la commune s'était vidée de ses habitants du fait d'attaques terroristes. Les stigmates sont encore visibles. Camions et autres engins incendiés par les groupes armés terroristes et aussi des maisons qui demeurent portes closes. Là, c'est un dispositif d'antenne de réseau de téléphonie mobile qui a été dynamité par ceux qu'on appelle ici les gens de la brousse. Il aura fallu de vigoureuses opérations de l'armée en janvier de cette année pour que Dassa reprenne vie. Une bonne partie de la population qui avait fui est de retour. C'est le cas d'Hubert Bassier.
Maintenant, je dis, ça va très bon même. Voilà, maintenant, on vit bien. Sinon, avant, on peut même pas répéter. Tu peux même pas sortir au marché. Pour gagner à manger, même pour payer quelque chose, il n'y en a pas. Tous les gens là sont allés à Rio, Dougou, Ouagadougou. Mais maintenant, quand les militaires sont venus, on respire bien.
Ces jours de marché, et Dassa est en pleine effervescence. Une scène impensable il y a quelques mois à peine. Clairement, Dassa renaît. Les entrailles du marché fourmillent d'activités. Dans cette ambiance bon enfant, militaires et volontaires pour la défense de la patrie VDP sont encensés, avec en bonne place le capitaine Traoré.
On remercie le président pour ce qu'il a fait pour nous. Sinon, ça n'allait pas. Voilà, ça a été compliqué. Mais maintenant, quand on est revenu dans notre coin là, on remercie les militaires, les VDP. Depuis que les militaires sont arrivés, maintenant ça va. Voilà, on n'a plus peur.
Derrière son étable, Patricia Bazongo, restauratrice, a retrouvé le sourire après avoir fui Dassa il y a quelques mois.
On était réfugiés à Rio, il y a d'autres qui sont à Kourougou, actuellement comme ça. Mais maintenant, on est revenu, mais nous qui sommes au centre là, il y a 2000. Mais ce sont ceux qui sont dans les villages là. Pour aller chercher de la nourriture aussi, c'est un problème pour eux. Quand nous tous nous sommes ici, comme il y a la sécurité là, il y a un peu du mieux. Si les VDP n'étaient pas encore là, et les militaires, je ne serais pas là ici faire. Mais c'est grâce à eux que nous tous sommes ici.
Des villages dont parle Patricia, il y a Dor, village le plus attaqué de la commune. C'est de là qu'est venue Abieta Kandolo. De temps à autre, elle retournait y chercher de quoi manger.
Mais si tu vois, tu caches. Quand tu as entendu le bruit d'une moto, tu te caches. Si c'est passé, tu s'en vas enlever maïs ou bien sorgho.
Mais il y a longtemps qu'elle n'y retourne plus. Dassa, pour elle, est désormais son havre de paix. C'est en mars de cette année que l'armée a installé un détachement militaire à Dassa. Des hommes constamment en mouvement qui ont permis le retour des populations locales dans cette commune. Une présence qui permet à nouveau à la localité d'être en phase avec le message de bienvenue placardé à l'entrée de la ville, Dassa, terre d'amitié et de paix. Gilles Dasda de retour de Dassa pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Ici aux États-Unis, la commission chargée d'appliquer les règles relatives aux élections ne réglemente pas les deepfakes ou fausses informations générées par l'intelligence artificielle dans les campagnes politiques en vue de l'élection présidentielle de 2024. Dina Mitchell rapporte depuis Austin au Texas le récit avec Chérubin Dorsil.
Il s'agit d'une vidéo de la campagne DeSantis War Room qui, selon les experts, comprend des images fausses montrant l'ancien président Donald Trump en train de faire une accolade à son ancien conseiller médical en chef, le docteur Anthony Fauci. Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, se présente contre M. Trump dans la course à l'investiture républicaine. Les images ont été examinées par Verify, qui a utilisé un moteur de recherche pour déterminer que trois d'entre elles étaient fausses. Casey Decker, reporter de Verify.
Si vous regardez de plus près les images, vous pouvez voir plus de preuves qu'elles sont générées par l'intelligence artificielle. Au lieu de dire Maison Blanche, c'est MEPAP qui est écrit. L'intelligence artificielle a souvent du mal à générer les textes précis. Dans celui-ci, il manque le pouce à la main de Trump.
Selon Lisa Gilbert, de l'organisation à but non lucratif de défense des consommateurs Public Citizen, le pouvoir de l'intelligence artificielle s'accroît, tout comme ce type d'image truquée destinée à influencer les électeurs.
L'une des choses que l'intelligence artificielle est capable de faire, en particulier l'intelligence artificielle générative, c'est de créer facilement des candidats. Ils devraient en référer au Congrès.
Le groupe Public Citizen a donc demandé à la Commission électorale fédérale des États-Unis d'établir des règles pour les publicités de campagne qui utilisent de fausses images générées par ordinateur, car elles pourraient déformer les opinions politiques d'un candidat, ce qui est déjà illégal. Le 22 juin, la commission chargée d'appliquer les règles électorales a décidé de ne prendre aucune mesure. Le commissaire Alan Dickerson, nommé par l'ancien président Donald Trump, a déclaré qu'il n'était pas compétent en la matière. Congress has given us very sharply
limited authority. Le Congrès nous a donné une autorité très limitée. Notre compétence sur ce point se limite au cas où une campagne se présente frauduleusement, comme agissant, je cite, au nom d'un autre candidat. Il devrait en référer au Congrès.
Public Citizen a qualifié cette inaction d'échec choquant, même pour une agence notoirement incapable d'agir. Lisa Gilbert estime que l'intelligence artificielle générative marque un tournant dans le domaine de la propagande électorale.
C'est un peu comme le moment où Internet a été inventé. Nous sommes sur le point de voir un océan de changement. Et imaginez que, lorsqu'Internet a été inventé, nous savions ce que nous savons aujourd'hui sur son impact et que nous avions pu créer des garde-fous pour protéger les gens à l'époque. Nous nous trouvons à ce même carrefour.
Le Congrès est actuellement saisi d'un projet de loi qui exigerait que les publicités politiques annoncent si l'intelligence artificielle générative a été utilisée pour créer l'une de leurs images ou de leurs vidéos.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde, Joselle Morissin. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.